Le grain de sable. Pensée globale. Une mission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Donc, bienvenue à l'émission Le Grain de Sable sur les ondes de Radio Canu. Donc, c'est notre émission de rentrée. Et donc, pour cette rentrée, nous avons invité les compagnons bâtisseurs. Donc, nous accueillons Sophie, la directrice, Frédéric, qui est animatrice technique dans le premier arrondissement, et Pascal, qui est administrateur trésorier de l'association. Donc, bienvenue, bonjour.
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 Donc, on va un peu commencer par vous présenter les compagnons bâtisseurs, enfin, notamment les compagnons bâtisseurs en Rhône-Alpes, parce qu'il y en a un peu partout. Mmh. Voilà, donc vous êtes. D'où vient cette association? Est-ce qu'elle est ancienne?
Alors, les compagnons bâtisseurs, c'est en fait un mouvement qui existe depuis 1947, depuis l'après-guerre, et qui avait été initié au départ par un prêtre en Belgique qui souhaitait mobiliser des personnes pour reloger des personnes qui rentraient de la guerre. Voilà, donc depuis le début, les compagnons bâtisseurs sont associés à la production, la création de logements ou l'amélioration de logements pour des personnes en difficulté. Donc ce réseau existe depuis 1947, il s'est laïcisé dans les années 60. Il existe dans plusieurs régions en France et aujourd'hui il s'appuie beaucoup sur des actions d'amélioration de l'habitat et d'insertion sociale des personnes en difficulté à travers, entre autres, la démarche d'auto-réhabilitation.
Donc l'auto-réhabilitation, ça veut dire donc travailler soi-même pour faire le travail qu'on pourrait demander à un artisan.
Ça veut dire concrètement qu'on a des équipes qui accompagnent des publics en difficulté, qu'ils soient locataires ou propriétaires de leur logement, dans des travaux d'amélioration pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, dans les travaux, on peut en rester à du simple embellissement ou des petites réparations. On peut aussi aller avec des propriétaires occupants modestes sur des travaux plus importants. Qui vont nous faire intervenir sur le changement de fenêtre, sur la création d'une salle de bain, sur de l'isolation. C'est de plus en plus dans l'air du temps.
Et donc c'est plutôt des logements vraiment vétustes où vous pouvez intervenir aussi avec des gens qui sont plus dans des situations moins...
Alors, dans notre réseau, on intervient vraiment dans tous les secteurs, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. On intervient beaucoup dans les quartiers urbains sensibles, et là en particulier dans le parc HLM. Mais on intervient aussi dans les centres anciens, dans du parc privé et dans de l'habitat très dégradé. Tout dépend des actions en fait qu'on met en place pour... Pour décrire un petit peu plus ce qu'on fait sur la région Rhône-Alpes, aujourd'hui on intervient sur l'agglomération lyonnaise, donc sur le premier arrondissement de Lyon, en plein cœur de ville, donc quartier ancien avec des appartements anciens. Et puis on intervient aussi sur Pierre-Bénite et Oullins, les quartiers de la Solée et de Haute-Roche. Donc là on est plus sur des quartiers d'habitat social qu'on a construit dans les années 60. Et on est en partenariat avec les organismes HLM pour aider leurs locataires à s'approprier leur logement, en fait, en embellissant une pièce, en créant des placards.
On pourrait se poser la question, un bailleur social, il pourrait le faire et pas forcément demander à ses locataires de s'en charger.
Évidemment, et quand les travaux qui sont envisagés relèvent de la responsabilité du bailleur, eh bien c'est à lui de faire les travaux. Nous, ce qu'on fait, ce sont les travaux qui relèvent des responsabilités locatives. Donc il y a un décret qui décrit ce qu'un locataire est censé faire dans son logement et ce qu'un propriétaire doit faire. Donc on intervient avec le locataire sur ce qu'il doit et qu'il peut faire. Et puis quand il y a des choses qui relèvent de la responsabilité du bailleur, eh bien on engage une médiation. Et c'est là que l'auto-réhabilitation est intéressante, parce que quand le propriétaire bailleur constate que son locataire s'est investi dans le logement, qu'il a repeint une chambre, qu'il a réaménagé la salle de bain, eh bien il est plus enclin
À lui aussi faire sa part
et éventuellement changer des toilettes qui sont vétustes, changer une baignoire pour une douche quand on a une personne âgée. Voilà. Donc on réalise dans ce sens des médiations que je vais qualifier à l'amiable avec le propriétaire bailleur.
En plus, justement, ça peut être aussi un moyen de donner de l'information, parce que ce qui relève du bailleur ou ce qui relève du locataire, il y a souvent peu de gens qui le savent. Tu parlais d'un décret, mais nul n'est censé ignorer la loi, mais souvent, on ne sait pas exactement.
Ouais, mais vous avez tout à fait raison. Les responsabilités des uns et des autres sont très peu connues des locataires. Et d'ailleurs, on ne réalise pas seulement des chantiers, on organise aussi dans les quartiers des animations collectives où on donne ce type d'informations. Donc, on fait venir des personnes, des habitants du quartier, et on leur propose de leur donner ces informations. Qu'est-ce qui relève de votre partie? Qu'est-ce qui relève du contrat d'entretien? On a souvent des contrats d'entretien de maintenance qui ne sont pas connus des locataires, et on peut leur expliquer que s'il y a un radiateur qui ne marche pas bien, c'est pas à eux de réparer, et que le bailleur a déjà un contrat d'entretien avec un artisan ou un prestataire du secteur.
Là, tout à l'heure, on disait que les compagnons bâtisseurs étaient anciens, donc plus de 50 ans, 1947, mais j'en ai pas entendu parler en Rhône-Alpes, du moins pas depuis très longtemps. Donc l'association en Rhône-Alpes s'est créée plus récemment.
Tout à fait. Alors oui, c'est normal. Notre association Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes est toute jeune. Elle a été créée en décembre 2010. Et elle se développe depuis. Elle a une vocation à intervenir sur toute la région Rhône-Alpes. Elle s'est créée en 2010 parce que le réseau national, et peut-être Pascal pourra nous en dire deux mots, le réseau national Compagnons Bâtisseurs a décidé qu'il était pertinent, qu'il était intéressant de s'investir sur cette région. Et donc, avec l'aide d'un petit groupe de membres fondateurs, on a tout simplement créé l'association. Et puis, on a réussi à trouver les financements nécessaires au démarrage de nos premières actions.
Juste pour avoir une idée, ça représente combien de personnes? Il y a des salariés, des bénévoles. C'est combien de personnes en Rhône-Alpes, en fait?
Alors, en Rhône-Alpes, l'équipe salariée est aujourd'hui composée de 8 personnes qui travaillent à temps plein. On a aussi aujourd'hui 46 adhérents, et on a énormément progressé ces derniers mois sur le nombre d'adhérents. On a une cinquantaine de bénévoles également investis dans l'association. Et puis on a cette particularité d'accueillir des jeunes volontaires en service civique pour en général une année. Et on a actuellement 3 jeunes volontaires, dont un qui vient de l'île de la Réunion et une qui vient d'Allemagne.
Donc là, par exemple, pour les services civiques, c'est des profils, c'est des techniciens bâtiments, en fait, qui viennent donner un coup de main, ou pas du tout? Ça peut être des gens, ça peut être du social comme profil, ça peut être...
Pas du tout. Le profil, il faut avoir entre 18 et 25 ans. Et il faut avoir envie de s'engager dans une association. Il faut avoir envie de faire du chantier. Il faut avoir envie de faire du chantier avec des personnes en difficulté. On est vraiment sur un engagement d'ordre associatif et citoyen. Et là, on accueille Manu, Gaël et Léa, qui avaient à leur démarrage aucune expérience dans le bâtiment. En revanche, Gaël et Manu, qui vont nous quitter dans un mois, savent maintenant conduire un chantier et passer de la peinture parfaitement, réparer une salle de bain. Voilà, ils ont acquis un savoir-faire qui leur servira toute leur vie, quoi.
Et pour les bénévoles, c'est pareil un peu, ou avoir des compétences, ou là aussi on s'investit sur les chantiers, ou il y a d'autres moyens de s'investir?
Là, c'est peut-être plus variable en fait sur la question des bénévoles. On a beaucoup de gens qui se proposent à nous pour participer au chantier. Alors il y a la partie chantier, mais il y a aussi une participation possible sur d'autres choses comme la communication ou des tâches administratives aussi. Là, je maîtriserai moins, mais pour la partie chantier, on essaye de les faire participer au maximum. Après, c'est plus en termes de volume que c'est pas si évident à organiser. On est souvent dans des petits espaces, une cuisine, une salle de bain, du coup, entre la personne qui est mobilisée sur son chantier, un animateur technique, un volontaire, l'espace est déjà vite plein. Mais après, on essaye dès qu'on peut, sur des plus gros chantiers, avec des grands espaces, de mobiliser un maximum les bénévoles, et sur des tâches qui peuvent être accessibles à des personnes qui n'auraient aucun savoir-faire au départ. C'est pas une nécessité absolue au départ. Après, c'est à nous d'organiser et de bien connaître nos bénévoles pour savoir comment il est le plus intelligent de les mobiliser pour que ce soit agréable pour eux et agréable pour nous, enfin, tout le monde soit content.
Et ça, c'est vraiment partie prenante du projet associatif. C'est d'associer les habitants des quartiers où on intervient, des villes ou des régions où on intervient, aux activités des compagnons bâtisseurs. Hein, on parlait tout à l'heure de l'historique, mais de faire ensemble. Et pour nous, ça, c'est un garant à la fois de pertinence, d'éviter qu'on devienne une association de techniciens hyper pointus sur l'animation, la réhabilitation, le juridique, etc. Mais de vraiment rester ancré dans un projet local. Et aussi que ces bénévoles participent à la gouvernance de l'association. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus une association qui soit pilotée par des gens qui sont bardés de diplômes ou d'expériences longues comme le bras. Voilà, c'est vraiment une volonté, on l'a expliqué, on est encore tout jeune, mais il y a vraiment cette volonté qui est affirmée et auquel tout le monde s'attache, à ce que voilà, cette association soit vraiment ancrée dans le territoire. Alors aujourd'hui, pour beaucoup dans le Rhône, mais vraiment sur toute la région. On évoquait des perspectives sur la Drôme ou sur l'Isère à Bourgoin-Jallieu. Voilà, l'une des premières choses qu'on fait, c'est de se dire il faut constituer un groupe local de bénévoles qui vont accompagner ces projets pour justement éviter ces dérives vers une association qui serait purement technicienne ou purement voilà. On n'est pas tout comme l'action chez les ménages, l'action globale des compagnons bâtisseurs, c'est pas être les meilleurs techniciens les plus performants. C'est de s'ancrer dans un projet et de créer des dynamiques associatives, sociales, voilà, faire bouger un peu les choses.
Oui, par exemple, si vous intervenez dans la Drôme, évitez que ce soit ceux qui savent et qui viennent de Lyon qui arrivent et que ce soit pas des gens locaux.
Ah bah oui, après pour des bénévoles lyonnais aller à Valence, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, qu'on s'appuie sur les compétences qu'on a acquises, a fortiori pour une organisation jeune comme la nôtre, sur Lyon, à travers nos animateurs techniques, voire certains bénévoles qui seraient volontaires d'aller faire une expérience. Pourquoi pas ? Mais encore une fois, cette action, si elle doit s'ancrer à Valence ou ailleurs dans la Drôme, il faut qu'on ait s'appuie sur les habitants, et c'est ce qui se passe d'ailleurs.
Pour expliquer sur Valence, donner une petite illustration, on est actuellement en train de monter une nouvelle action d'autoréhabilitation sur les quartiers sensibles de Valence, le plan et fonds Barlette. Et dans le montage de cette action, en fait, on a inclus une réhabilitation d'un appartement qui va devenir le local des habitants d'un quartier, enfin d'une résidence sociale qui est en cours de réhabilitation. Donc, une action compagnon bâtisseur, ça a été 10 jours de chantier. Notre animateur technique a animé ce chantier et tous les habitants de cette résidence ont été invités à raison de 2 heures par-ci, d'une demi-journée par-là, à venir apprendre à passer le pinceau, à poser la toile de verre. Et on a eu du monde. On inaugure ce local très prochainement et on sait qu'on a déjà un petit groupe d'habitants qui sont intéressés par notre action.
Est-ce que, par exemple, il y a des habitants avec qui vous avez travaillé, donc qui vous les avez aidés à rénover leur logement, qui ensuite deviennent bénévoles parce que ça leur a plu, parce qu'ils ont appris des choses et qui...
Voilà, je vais laisser la parole à Fred parce qu'elle vit ça au quotidien et en effet, ça se passe très régulièrement.
Ouais, ça fait partie d'ailleurs d'une des choses qu'on demande aux personnes quand on démarre un projet chez elles. On leur demande d'ouvrir leurs portes à d'autres bénéficiaires du projet pour avoir un coup de main et aussi elles-mêmes, dans la mesure de leurs possibilités, du temps libre qu'elles peuvent avoir, d'aller participer sur le chantier de leurs voisins. C'est d'où l'idée aussi d'intervenir sur des zones assez petites pour favoriser justement l'échange et la facilité de ce genre d'entraide. Donc en effet, une fois le chantier terminé chez Madame Intel, eh bien elle pourra toujours continuer à venir aider chez un autre, sans souci. Ça arrive fréquemment, oui.
Et on parlait des volontaires ou des bénévoles, enfin des gens qui peuvent s'investir. Est-ce qu'il y a une formation ou c'est, ben voilà, on apprend en faisant, ou est-ce que vous avez aussi des moyens de formation un peu plus...
En fait, on est assez content en ce moment parce qu'on a mis en place il y a à peu près 8-9 mois une démarche sur le bénévolat. Donc, ce qu'on appelle, nous, le plan d'action bénévolat et qui commence à porter ses fruits. Et effectivement, on est en réflexion pour pour travailler sur ce qu'on appelle le parcours du bénévole. Donc, comme on l'a dit, les bénévoles viennent chez nous. Ils peuvent venir parce qu'ils ont des compétences techniques, ils sont électriciens, plombiers et ils veulent les offrir. Ou alors, ils n'en ont pas du tout et au contraire, ils veulent les acquérir. Et donc, on travaille sur ce parcours des bénévoles et on est en train de mettre en place des chantiers de formation spécifiques pour nos bénévoles.
Et juste en termes de temps, bénévole, c'est quelqu'un qui peut donner quoi, une demi-journée par semaine, deux heures, enfin en termes de temps et de disponibilité, c'est quoi?
Vraiment,
c'est très variable.
C'est très variable. C'est très variable. Ça dépend complètement de la situation de la personne, sa situation professionnelle, sa situation familiale. On est vraiment super ouvert. On demande juste un numéro de téléphone, une adresse mail, et ensuite c'est un peu fonction des chantiers que l'on conduit. Je pense à un chantier assez important qu'on a réalisé cet hiver sur Saint-Fons pour accompagner un monsieur qui était vraiment dans un logement HLM mais très dégradé. Et là, on est intervenu sur toutes les pièces de ce logement, on l'a intégralement débarrassé, donc il y avait de la place. Et il y a des bénévoles qui sont venus 3 jours d'affilée, d'autres une demi-journée. Donc, c'est vraiment comme la personne est disponible. Je rajoute juste qu'il y a un peu un mot d'ordre chez les compagnons bâtisseurs par rapport au bénévolat, c'est qu'il faut que les choses elles soient faites dans la convivialité. Les bénévoles viennent parce que participer à un chantier, ben c'est très très sympa, quoi. Il y a une bonne ambiance et on insiste beaucoup là-dessus.
Il n'y a pas des obligations de rentabilité, il faut avoir fini ce mur ce soir.
Parfois, il y en a, parce que vous imaginez, l'autoréhabilitation, c'est travailler en site occupé. Donc, la personne, le soir, elle va dormir dans son logement à nouveau. Et donc, il ne faut pas que les chantiers s'éternisent de trop. Ensuite, c'est le terme de productivité, peut-être pas le bon, mais c'est vrai que parfois ça peut booster une équipe de se dire bon là on a 2 jours pour finir ces 2 pièces, on y va, on relance certains bénévoles parce qu'il y a de la place, et voilà, ça donne de l'enthousiasme et de l'entrain à l'équipe.
Oui, de toute façon, comme souvent, l'après est beaucoup mieux que l'avant, on est aussi content du travail fini et de le voir. De le voir être concrétisé.
L'après doit toujours être mieux que l'avant.
C'est la nuit noire ou le matin, le chant du vent ou le fracas, des rues, des villes abruties, c'est de l'air pur à satiété, ou des poumons archi-troués, et nous là-dedans qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on peut vraiment y changer quelque chose ou laisser durer? L'alternative, c'est pas malin, c'est dire oui à un désir, ou d'un seul coup se voir vieillir, c'est piétiner sa propre image, celle dont les autres vous encagent, ou faire continuer le mirage. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées, on sait plus comment s'orienter. L'alternative, c'est pas malin, c'est s'emmerder à s'en foutre l'heure, dans des boulots déshonorants, ou c'est pas malin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Pour continuer bon en malant, jusqu'à la fin en cahotant, à chercher un peu le panard. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on peut vraiment y changer quelque chose pour laisser durer? Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées, on sait plus comment s'orienter.
Donc on écoutait François Béranger avec l'alternative, et donc on revient dans le grain de sable avec les compagnons bâtisseurs, donc qui travaillent à aider, à accompagner des habitants, qu'ils soient propriétaires ou locataires, à faire de l'autoréhabilitation. Ce qu'on se demandait, vous avez des projets un peu partout, d'ailleurs qui commencent à un peu grandir ou du moins se multiplier sur la région Rhône-Alpes. On a parlé de la Drôme, il y a aussi à Bourgoin, il y en a à Lyon, Oulin, Pierre-Bénite. Et comment l'association prospecte ou rencontre, crée les projets, les chantiers? Vous rentrez des gens, comment vous arrivez à savoir qu'il y a un besoin, ou est-ce que vous êtes appelé?
Alors, au départ, sur Rhône-Alpes, il y avait une volonté de notre réseau national Compagnons Bâtisseurs d'investir dans cette région et de voir où et comment on pouvait démarrer de nouvelles actions. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a pu démarrer sur l'agglomération lyonnaise et en particulier sur le premier arrondissement de Lyon, parce que on y a trouvé des personnes, hein, des élus, la maire du premier arrondissement, l'adjoint au logement de la ville de Lyon, qui nous ont sollicité et qui nous ont dit, cette action d'autoréhab, elle nous intéresse. Est-ce que vous pouvez la monter à titre expérimental sur ce territoire? À partir de là, nous, on regarde ce qui se passe sur ce territoire, quels sont les publics en difficulté, comment sont les logements, et puis on monte des partenariats avec les acteurs qui interviennent. L'originalité du premier arrondissement, c'est qu'il y a énormément d'organismes HLM, et on a réussi à monter un partenariat aujourd'hui avec 7 organismes HLM, donc on peut intervenir chez ces 7 organismes-là. Donc l'action s'est montée et elle a été lancée. Ensuite, la question aussi peut être comment on identifie les personnes chez qui on va intervenir. Et alors là, c'est là que notre action croise vraiment tous les enjeux de l'action sociale et de la problématique de l'habitat dégradé. Ce sont en fait nos partenaires qui sont des travailleurs sociaux, alors de différentes structures, des organismes HLM, mais aussi des CCAS, des conseils communaux d'action sociale, ou du département, ou des associations locales qui connaissent des populations, enfin des familles, des personnes qui sont en difficulté dans leur logement et qui nous présentent ces situations. Et à partir de là, on va faire des visites à domicile chez eux, et puis si les personnes sont volontaires, on embraye sur un chantier d'autoréhab.
Est-ce qu'il y a des personnes qui toquent à votre porte parce qu'ils ont entendu parler, ou parce que un voisin ou quelqu'un qui habite une rue plus loin connaît ou a...
Maintenant qu'on commence à être un petit peu connu sur le premier arrondissement, oui, ça arrive.
On va peut-être un peu détailler concrètement comment on se passe ces opérations, comment vous travaillez avec...
Eh bien, ça commence d'abord par une visite à domicile avec donc le prescripteur, la personne qui est à même de juger les situations sociales ou économiques du foyer, et le bailleur. Et nous, qui sommes sur place, on va définir avec la famille quels seraient leurs besoins de rénovation. Et après, selon qu'ils sont un peu trop larges ou trop petits, on va les affiner un peu ensemble et s'engager à travers un protocole pour un accompagnement d'une année avec eux. Donc après, dans les faits, on essaye de condenser un peu le chantier sur une durée de 3 mois, parce que comme la personne vit dans le logement en même temps, faut pas que ça dure trop longtemps. Maintenant, on se met toujours au diapason de la personne, que ce soit par rapport à son état de santé, son isolement, Voilà. Mais quoi qu'il arrive, on essaye de toujours mobiliser la personne. La personne est actrice de son projet et c'est vraiment une condition sine qua non pour qu'on puisse s'engager. Si la personne était un petit peu fatiguée ou avec une mauvaise santé, on mobiliserait donc l'entraide amicale ou familiale ou encore des bénévoles. Donc on va plutôt se focaliser sur la rénovation de deux pièces en théorie. On est aussi limité par un budget, hein. On peut pas non plus tout refaire, donc c'est pour ça qu'on priorise. Et donc une fois parti, on lance les travaux à minimum d'une demi-journée par semaine si possible. Enfin voilà, on s'adapte à ça. Parce que donc sur le terrain, moi personnellement animatrice technique, je me retrouve à être à cheval sur 5 ou 6 chantiers en même temps. Du coup, pour pouvoir être occupé moi tout le temps et faire que les chantiers avancent de l'autre côté et être au rythme des personnes.
Et là, on parlait budget, parce que avec l'aide manuelle, on peut effectivement faire des économies parce qu'on n'a pas besoin de payer la main d'œuvre, mais on peut quand même avoir besoin d'acheter du matériel. Et si la personne n'a pas forcément les moyens, est-ce qu'on peut l'aider à trouver des aides?
Pour la partie auto-réhabilitation accompagnée, nous on a une enveloppe de 700 euros de budget pour l'achat des matériaux. On va refacturer 10% de la somme qu'on aura dépensée. On va pas forcément tout dépenser, c'est pas spécialement l'idée non plus, mais voilà, maximum on aura cette somme-là. On refacture 10% à la personne et après, donc on comptabilise pas nos heures ou quoi. C'est vraiment un accompagnement. C'est que les matériaux qu'on s'occupe d'amener dans le foyer, de livrer, etc. Toujours en accord avec la personne, ses goûts, ses couleurs aussi.
Sachant que le reste est financé par les collectivités, les bailleurs, des fondations privées. Enfin voilà, notre travail à nous, compagnons bâtisseurs, c'est aussi d'aller trouver des financements pour financer ces actions, pour qu'effectivement, au final, les ménages qu'on va accompagner, qui sont toujours des ménages très modestes, et quelque chose, une participation qui est vraiment symbolique. Mais effectivement, il y a tout un travail, toute une animation à financer.
D'accord. Donc en fait, les personnes vont bénéficier de financements que reçoivent les compagnons bâtisseurs. Est-ce que les vos financeurs ont un droit de regard sur les personnes que vous allez aider ou non? C'est complètement déconnecté.
Peut-être si vous avez des conventions avec certains bailleurs, non?
Il y a peut-être des... Un droit de regard, c'est pas tout à fait le terme. En fait, comme je le disais, c'est nos partenaires qui sont des travailleurs sociaux qui orientent des familles. Donc, je peux les lister, hein, nos partenaires travailleurs sociaux, ce sont les CCAS, les Maisons du Rhône, les organismes HLM et les associations locales. Et les personnes sont présentées lors de comités techniques où tous ces partenaires sont présents et on juge collectivement de la situation d'une famille et de l'intérêt ou pas de réaliser un chantier chez elle. Alors c'est vrai que notre partenariat avec les bailleurs fait que on réalise en moyenne une quinzaine de chantiers par an et que il en faut un peu pour chacun. Donc sans qu'on soit dans un système de quotas, on essaye aussi de répartir ces 15 chantiers chez les différents bailleurs qui nous soutiennent financièrement.
Tout à l'heure, on a parlé de médiation. Est-ce que par exemple sur ces chantiers, vous avez fait de la...
Oui,
la médiation.
La médiation, oui, c'est tout ce qui va concerner les problèmes liés aux réparations qui devraient être faites par le propriétaire, parce que nous, on ne va travailler que sur la partie responsabilité des locataires. Et donc, à partir de là, on va pouvoir, sur certaines questions, justement mobiliser le propriétaire de manière amicale, on va dire, pour qu'il fasse ce qui lui incombe, en fait. Donc, la chaudière est cassée, c'est pas du locatif, donc on va mobiliser le propriétaire pour que ça puisse être fait et que la personne soit bien dans son logement.
Et ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, le fait qu'on intervienne dans son logement, ça peut motiver aussi à peut-être faire un peu plus que ce qui aurait été prévu ou...
Oui, en effet.
On laisse pas on laisse pas l'appartement peut-être se délabrer, ou ça donne une dynamique, ça.
Ben oui, bien sûr, il y a déjà une prise de conscience pour certains foyers, il y a vraiment une grosse prise de conscience par rapport à ce que peut être l'entretien du logement, et du coup quand on a travaillé des semaines durant pour le remettre en état, derrière c'est clair que c'est plus du tout la même implication dans le logement, on voit plus son logement de la même façon. Et après, comme je disais, nous on va pouvoir s'engager sur l'embellissement, la rénovation dans deux pièces grosso modo, mais derrière ça va souvent impulser à la personne, au foyer, au ménage, de dire tiens, c'est bien ce qu'on a fait, et si on faisait cette autre chambre ou le salon qui n'a pas été fait. Voilà, donc ça fonctionne très souvent comme ça. Et nous, dans la mesure du possible, on continue à accompagner ces personnes, puisqu'on a un contrat d'engagement d'un an avec elles, et qu'elles n'hésiteront pas à nous solliciter pour avoir du conseil, et aussi du prêt de matériel, des outils, voilà.
Donc ça, c'est locataires chez lesquels on a fait un chantier, c'est eux que vous appelez les adhérents en fait? Ou pas, ou c'est encore autre chose?
Non, pas du tout.
D'accord.
Les adhérents, ce sont des personnes qui ont été informées de notre projet associatif, qui adhèrent aux valeurs compagnons bâtisseurs et qui veulent soutenir cette association. Les personnes chez qui on travaille, on les appelle en général les bénéficiaires de notre action ou de nos chantiers. Et ces bénéficiaires peuvent devenir, s'ils le souhaitent, bénévoles. C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur d'autres chantiers ailleurs que chez eux, et ils peuvent aussi devenir adhérents. C'est-à-dire que, et ça arrive souvent, ils constatent que cette association, finalement, c'est assez génial, on les a aidés, ils peuvent en aider d'autres, et ça continue. Et du coup, ils ont envie d'en savoir un peu plus, ils veulent venir à notre assemblée générale, ils veulent assister à nos ateliers de bricolage, et ils s'investissent vraiment dans l'association.
Et par exemple, dans le premier arrondissement, il y a des habitants qui vont les uns chez les autres pour s'aider, ou...
Oui, ça se fait par le biais de l'association. En effet, on a je travaille en général chez 5 ou 6 foyers en même temps, donc j'essaye de les mobiliser pour aller chez les uns, chez les autres, les anciens bénéficiaires chez qui on a déjà terminé, et puis peut-être ceux à venir pour déjà qu'ils aient une idée de ce que ça pourrait être chez eux. Donc, ça existe déjà, et puis ça peut être fait aussi dans le cadre d'une mise en réseau, puisqu'on a un local qui est au 21 rue Pouteau, dans lequel on fait des animations de bricolage tous les mardis après-midi, le premier mardi de chaque mois.
Et ça, c'est ouvert à tous, ou c'est uniquement pour ceux qui sont dans des chantiers? Non,
c'est ouvert à qui veut. C'est gratuit. Et une fois par mois, on va donner une animation sur un thème bien défini, les autres mardis c'est un atelier libre, et grosso modo c'est venez faire du bruit et de la poussière chez nous, profiter de nos conseils, de nos outils, des personnes qui se trouvent là et qui ont du savoir-faire, qui ont envie de filer un coup de main. Et donc encore par ce biais là on va pouvoir mobiliser d'autres habitants qui sont pas nécessairement bénéficiaires du projet, mais qui vont rentrer dans le cadre du bénévolat.
Donc juste pour avoir un exemple, par exemple les derniers ateliers ou les prochains ateliers, ça peut être quoi comme thème?
Alors, le prochain mardi 10 septembre après-midi, on fait ça sur deux créneaux de 2 heures, 2 fois la même chose, pour que les personnes qui sont libres en journée puissent venir, celles qui travaillent aussi puissent venir un peu plus tard en fin de journée. Donc ce sera sur les techniques de fixation, thème qui sert bien en cette période de rentrée, puisque certains emménagent ou font des petits aménagements de début d'année. Et grosso modo, c'est apprendre à fixer tout et n'importe quoi chez soi, de la tringle à rideaux au miroir.
Des étagères,
N'importe quoi en fait. L'idée c'est de savoir comment fixer quoi dans quel support. Donc on s'entraîne, on met la main à la pâte, on sort les perceuses, on fait du bruit, on fait de la poussière encore une fois, et vraiment l'idée c'est que la personne elle puisse une fois sortie de cet atelier dire alors d'une part j'aimerais bien m'inscrire à l'outil tech pour pouvoir emprunter l'outil que je viens d'utiliser et rentrer chez moi, pouvoir enfin poser l'étagère qui est depuis 3 semaines dans le couloir, que je ne savais pas poser, quoi. C'est simple.
3 semaines, à mon avis, moi j'en ai des trucs comme ça qui traînent depuis beaucoup plus longtemps.
Passez à la télé, alors.
17 ans, ouais.
Donc après, il y aura d'autres thèmes comme apprendre à poser de la faïence, poser de la toile de verre et des choses un peu plus déco comme faire des pochoirs. Et après, moi, j'hésite pas de plus en plus à solliciter des bénévoles qui auraient une spécificité, un électricien qui a envie de transmettre son savoir-faire, parce qu'il y a quand même quelques responsabilités locatives aussi, même en électricité ou en petite plomberie. Voilà, sur des terrains que je maîtriserais moins peut-être. Voilà, venez on peut co-animer ensemble des animations sur des thèmes qui vont concerner plein de gens.
Et ce qui ressort de vos actions, c'est vraiment vous êtes capable de donner un déclic. Il y a plein de gens qui n'oseraient pas parce qu'ils se font un monde d'un chantier, d'ailleurs pas forcément énorme, mais voilà, parce qu'ils ont l'impression de ne pas savoir. Donc effectivement, des étagères qui ne sont pas montées, des robinets qui fuient. Et que,
ouais, c'est ce que je dénote pas mal, ouais, de la suite de nos chantiers. Voilà, il y a une espèce d'effet domino, quoi. Ça fonctionne bien.
Et que finalement, en s'y mettant un peu, tout le monde sait faire, ou du moins c'est...
Oui, il y a beaucoup de gens où il manque seulement une impulsion de départ et une forme de confiance en soi aussi, simplement.
Oui. Que c'est peut-être pas que l'affaire de professionnel et qu'on peut, si on nous montre, on peut apprendre, quoi. On peut apprendre et s'y mettre.
Oui, je crois que tout le monde...
Et transmettre, ouais.
Je crois que tout le monde peut apprendre, ouais.
Puis l'idée de ces ateliers, de ce local qui est ouvert très régulièrement, c'est qu'on peut aussi revenir demander un conseil. On peut essayer en disant, bon, j'ai eu un problème, j'ai fixé mon étagère, ça n'a pas bien tenu, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, il y a aussi...
Oh, après, oui, ça permet de garder le contact, voilà. Et d'avoir une porte ouverte en local où, voilà. Qui fait lien, où on sait qu'on peut passer.
Voilà, ouais. Et ça, c'est important aussi dans le lien local, dans les dynamiques locales, de se dire, on peut en discuter et puis on peut rencontrer quelqu'un qui lui sait un peu plus, qui éventuellement va proposer de donner un coup de main ou autre. Après c'est la vie, quoi. Mais puis à côté de ça, il y a vraiment cette il y a une chose qui est un peu caractéristique, c'est que le bricolage, ça fait plaisir. Il y a plein de gens qui bricolent, donc effectivement ça c'est enrichissant. Mais en même temps, le chez soi, c'est tellement important. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose de bien chez soi, quand on est bien chez soi, ça nous change la vie. Enfin, et du coup, cette problématique d'intervenir dans le logement et dans son logement avec sa famille, il y a vraiment quelque chose qui va au-delà, je pense, du geste. Quand on installe l'étagère dans la chambre des gamins pour poser les livres d'école, et ben, ça va au-delà que les livres traîneront pas par terre.
Ça, même, oui, au-delà du côté utilitaire, voilà. Ou du côté que ça nous a coûté moins cher que si on avait dû faire appel à un professionnel, parce que de toute façon, les gens n'auraient certainement pas fait.
Ah ben non, voilà. Et a fortiori, si on le fait ensemble, si on le fait avec.
Les déclics que ça engendre dans la vie, ils sont énormes et ils sont plus du tout sur des questions uniquement sur des questions techniques de logement. C'est-à-dire que vous avez amélioré votre salon, repeint votre salon, vous pouvez désormais inviter des amis que vous n'invitiez plus et sortir de l'isolement. Vous avez permis à vos enfants de choisir la couleur de leur chambre, ils vont s'y sentir bien. Si en plus les bouquins sont posés sur l'étagère, ils vont peut-être y faire leur devoir. Il y a des tas de choses qui se passent dans le chantier qui sont de l'ordre du relationnel avec les personnes qui habitent ce foyer, un couple, des enfants, un monsieur qui vit avec sa mère très âgée. Et puis, ça déclenche des tas de choses sur les relations qu'on a avec l'extérieur, avec ses voisins, avec l'ouverture du chez-soi.
Chissà che pensi adesso, è stato solo sesso. C'è altro che fra noi dovrà succedere più spesso. E già mi manca l'aria, già non so più se voglio. Se tocca a me decidere, non riesco a far di meglio. E non so se il tuo risveglio rimango me la squaglio. Il tempo di una rima tra la brina e la mattina. Per scrivere col rossetto allo specchio in fondo al letto. Addio che senza impegno io rinuncio già al tuo regno. Rimando, 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 rimando. Io rimando, rimando tutto a domani, yeah. Rimando, rimando, io rimando, 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 rimando sempre a domani. E piano un'altra volta io chiudo un'altra porta di fronte agli imprevisti. essere travolta da scelte che non voglio, dal rischio di un abbaglio. Sul pianerottolo delle intenzioni non mi sbaglio. Tra fanti già caduti, tra principi svaniti, tra foglie di stagioni già seccate nel diario, lo so che passano gli anni, che il tempo non lo inganni. La solitudine mi ronza intorno e faccio danni. Rimando, 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 rimando tutto a domani. Rimando, rimando, io rimando, rimando, io rimando, rimando sempre. Rimando sempre a domani. La brina la mattina, la farina l'aspirina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, la rima da bambina, la libertà di stare come prima. La brina la mattina, profumo di benzina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, divinità o regina, di un attimo d'amore tutto torna come prima.
Donc après Musica Nuda, on reprend donc avec les compagnons bâtisseurs. Donc on vient de développer un des chantiers, des actions que vous faites dans le premier. Donc on a aussi évoqué l'outil tech ou des ateliers. Et vous nous disiez que c'était ouvert à tous et pas seulement aux bénéficiaires des chantiers. Et on peut donc n'importe qui venir emprunter. Est-ce qu'il faut adhérer aux compagnons bâtisseurs ou...
Alors non, vous n'êtes pas obligé d'adhérer aux compagnons, vous pouvez seulement vous inscrire. Si vous souhaitez adhérer au projet en plus, pas de problème, vous pouvez adhérer en plus pour le même prix. Donc à savoir 3 euros pour les bénéficiaires de notre projet, 10 euros pour n'importe qui et 30 euros pour les personnes qui voudraient faire une cotisation de soutien.
Ça c'est l'adhésion à l'association, hein, pas à l'outil tech.
Non, voilà. Donc pour l'inscription à l'outil tech, c'est 3 euros ou 10 euros selon qu'on est bénéficiaire ou non du projet d'auto-réhabilitation.
Donc, 3 euros, c'est par exemple, je m'inscris à l'outil tech, c'est sur l'année, c'est sur.
Alors c'est 10 euros pour l'année.
Et après, selon les outils qu'on prend ou...
Alors ça va être des emprunts pour une semaine. Donc une semaine, vous gardez les outils chez vous, vous les utilisez, etc. Donc c'est des outils, je précise quand même, hors consommables. Ça veut dire que ça va être plutôt des outils comme des perceuses, des sauteuses, mais aussi bien la clé de 12 et je sais pas moi le tournevis cruciforme. Mais par exemple, on va pouvoir vous prêter le matériel de peinture, mais pas les pinceaux ou les rouleaux qui seraient foutus après avoir été utilisés s'ils avaient été mal nettoyés. Donc on se risquera pas jusque là, mais néanmoins si vous voulez une clé de 10 pour un seul usage, c'est intéressant de venir à l'outil tech et pouvoir bénéficier de d'autres outils pendant une semaine. Donc la durée du prêt c'est une semaine, l'inscription elle est valable un an et on vous demande juste un justificatif de domicile, une copie de votre assurance habitation, c'est important en cas d'accident. On sait jamais. Et puis c'est tout. À part, oui, j'oublie la caution quand même pour le matériel électroportatif qui est un peu coûteux. On demande une caution de 50 euros.
Et puis surtout, pardon, vous pouvez aussi, en s'inscrivant à cet outil tech et emprunter des outils, bénéficier des conseils de l'animateur technique. Parce que autant un tournevis cruciforme, on sait comment s'en servir, mais une perceuse, une scie sauteuse, c'est un peu plus compliqué. Donc on a aussi prévu que...
Ça va même au-delà, c'est qu'on fait une initiation à la sécurité.
Oui, si, oui.
Et que... À moins de bien connaître la personne et de connaître ses compétences, on fait toujours un essai sur place, au local, pour dire voilà, qu'est-ce que vous voulez faire avec, est-ce que c'est la bonne utilisation, est-ce que c'est le bon outil, est-ce que vous savez l'utiliser, montrez-moi, etc.
Alors ça, par exemple, c'est ouvert à tout le monde ou c'est les habitants du premier ?
C'est ouvert à tout Lyon depuis un peu. Donc non, c'est ouvert à tout Lyon, tous les habitants de Lyon.
Et c'est à Pierre Bénite et Houlin, c'est le même principe ou...
Exactement.
C'est exactement le même principe. Pierre, notre local, en fait, il se situe dans la rue Pierre Sémard, dans le quartier de la Soleil à Houlin. Il est un peu plus petit et peut-être moins bien aménagé que notre local rue Poutot, parce que sur la rue Poutot, on a quand même fait un gros chantier de réhabilitation sur ce local. Mais le principe est le même. On a un autre animateur technique qui travaille là-bas, qui s'appelle Jérôme, qui tient aussi des permanences, des ateliers de bricolage, et qui accueille toutes les personnes de Pierre Bénite ou de Houlin qui voudraient emprunter des outils ou apprendre à bricoler.
Et est-ce que vous avez, avec une offre aussi allégeante, est-ce que vous avez vraiment beaucoup de monde, et est-ce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui s'inscrivent au chantier, et puis est-ce que vous arrivez à satisfaire toutes les demandes?
Oui, pour l'heure, oui, ça va, on n'a pas été encore pris d'assaut, mais... peut-être que ça ne va pas tarder. On a fait aussi pas mal de communication, papier, des petits flyers qui vont être distribués auprès de nos partenaires, qui vont pouvoir eux-mêmes les redistribuer, des petits encarts dans des journaux, des émissions de radio. Donc je pense que ça va pas tarder à être beaucoup plus sollicité. Pour l'instant, on a sur l'outil tech de Lyon premier une quinzaine d'inscrits déjà. Donc voilà, ça va être encore une fois des emprunts pour des outils, mais assez larges, quoi. Je recomplète au fur et à mesure, parce que je pourrais pas tout dire, mais voilà, ça va être l'escabeau aussi, l'échafaudage, un diable parce que on n'a pas de voiture et qu'on a un frigo à bouger d'une porte à une autre. Enfin voilà, c'est plein de petites choses auxquelles vous pouvez venir voir si on les a et si on peut vous satisfaire, quoi.
Et puis on étudie actuellement aussi la possibilité de déployer notre action sur les quartiers de Moncey, Voltaire et Guillotière dans le 3e et le 7e arrondissement de Lyon. Donc si notre outil tech venait à être prise d'assaut sur le premier, peut-être que on accélérerait notre implantation sur ces nouveaux quartiers.
Et en dehors de l'outil tech, pensez également à des gens qui pourraient demander aussi à bénéficier de chantiers. Parce qu'au bout d'un moment, il faut pouvoir les suivre aussi. Donc,
Oui, bien sûr. Après, toute la question, c'est est-ce qu'on initie une nouvelle action sur un nouveau territoire? Et comme le disait Pascal tout à l'heure, une action, il faut la financer également. Hein. C'est un animateur technique à plein temps sur un territoire. Frédéric est aussi accompagné par une animatrice Habitat qui travaille à ses côtés et qui travaille sur les différents territoires. Donc voilà, c'est des actions qui sont intéressantes, mais qui ont un coût néanmoins.
J'ai regardé sur le site, vous ne faites pas que de l'auto-réhabilitation, donc on a aussi parlé d'auto-construction. Donc est-ce qu'il y a également des projets de ce type en Rhône-Alpes?
Oui, alors ça c'est notre nouvelle stratégie et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. En fait, dans le contexte d'aujourd'hui de crise du logement et de difficultés pour certaines populations d'accéder à un logement abordable, on renoue avec des pratiques qui ont eu cours dans les années 60-70, entre autres avec les castors. On a beaucoup travaillé nous avec les castors et on se dit que il y a certainement moyen d'impliquer des personnes modestes, en difficulté, parfois éloignées de l'emploi, parfois très disponibles parce qu'elles n'ont pas d'emploi ou parce qu'elles sont un peu accidentées de la vie ou parfois elles sont jeunes et elles ne trouvent pas de boulot. Donc l'idée, c'est de travailler avec ces personnes-là à la production de logements, donc la construction, l'auto-construction de logements. Alors pour l'instant, on a un projet qui se situe dans le Nord-Isère, sur la commune de Bourgoin-Jallieu. On a monté un partenariat avec un organisme HLM. Et on est assez content parce qu'on vient de déposer le permis de construire et qu'on espère pouvoir engager dans le courant de l'année prochaine la partie autoconstruction. On prévoit de réaliser tout le second œuvre en autoconstruction.
Oui, voilà, c'est la question que je vais vous poser. Par contre, pour le gros œuvre, c'est quand même pas... Et c'est quel type de construction et effectivement à quel niveau vous intervenez quoi?
Alors là, ce projet-là, on est en plein cœur de ville et la ville de Bourgoin-Jallieu nous a proposé un foncier qui est bâti, donc un vieil immeuble désaffecté et un peu pourri. Les études techniques qu'on a fait sur cet immeuble-là nous donnent la conclusion qu'il faut le démolir pour reconstruire. Voilà, donc on s'est engagé là-dedans, et c'est vrai qu'avec un organisme HLM qui est très soucieux, voilà, des risques pris, qui assure la maîtrise d'ouvrage de ce projet, ben on s'est accordé sur le fait que le gros œuvre serait fait par des entreprises, et puis que nous, avec les 10 jeunes, et puis des bénévoles, des volontaires, on s'occuperait de tout le second œuvre. Voilà, donc tout ce qui se fait après le clos et le couvert, donc les cloisons, l'isolation ciel et air par l'intérieur, l'électricité, la plomberie, et puis tout ce qui est revêtement de sol, de mur.
Et donc les personnes donc qui vont faire l'autoconstruction, ça va être leur logement ensuite.
Exactement.
Mais ce sera quand même des logements d'un bailleur HLM.
Voilà, ils seront locataires du logement social, mais avec on espère atteindre un niveau de loyer un peu plus faible, et puis des modalités de gestion ensuite qui soient un petit peu alternatives. On espère que ces jeunes puissent s'organiser un mode associatif ou coopératif pour pouvoir s'impliquer dans la gestion de cet immeuble.
Et c'est des personnes, a priori, qui n'ont pas spécialement de compétences en construction, donc ça va aussi leur servir de formation?
Tout à fait. On a bien prévu de travailler avec des partenaires comme le Greta ou comme l'AFPA pour que ces jeunes-là puissent, à l'occasion du chantier, s'inscrire dans une formation qui n'est pas forcément une formation BTP, mais qu'en tout cas, on soit autant dans l'accès à un logement que dans une forme d'insertion professionnelle.
Et donc c'est un groupe qui est déjà constitué, donc c'est des gens qui vont aussi s'entraider en sachant qu'après ils vont tous vivre dans le même immeuble.
Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui on a une dizaine de jeunes qui a été identifiée il y a maintenant presque un an. Alors on sait que les jeunes aujourd'hui, surtout quand ils n'ont pas de boulot, ils sont assez mobiles. Donc sur les 10 jeunes qu'on avait identifiés au début, il en reste aujourd'hui peut-être 7 ou 8, mais ça veut dire que le chantier est ouvert à d'autres. Et les personnes ont appris à se connaître, elles ont au cours de réunions collectives fait part du logement dans lequel elles voulaient se projeter, de la taille, de l'organisation, des matériaux. Alors on sait qu'on peut pas tout choisir, puis ils ont appris aussi à se dire qu'ils allaient vivre dans le même immeuble.
Vous disiez des jeunes peuvent être mobiles, il y en a déjà qui étaient au début du projet qui ne sont plus là, mais quand vraiment le chantier va commencer, est-ce qu'il y aura un engagement, ou s'ils trouvent du boulot ailleurs, il pourra quand même partir? Non, mais c'est un projet à long terme.
Vraiment, on va les enchaîner aux outils.
Aux fondations.
Comme je le disais, il y a un mot qu'on aime beaucoup, compagnons bâtisseurs, c'est celui de parcours. Alors, évidemment, on ne peut pas s'engager dans un chantier d'autoconstruction sans forme de contractualisation avec ces jeunes-là, parce qu'on doit, nous, s'engager sur des délais, sur des choses qui doivent être réalisées. Maintenant, si un jeune, dans son parcours, obtient un emploi, change de formation et veut quitter ce projet-là, on sait qu'on pourra trouver un autre jeune qui viendra le remplacer.
Mais ça ne met pas en péril le projet non plus.
Mais voilà, on s'organise pour que ça ne mette pas en péril le projet. En revanche, on sait qu'il faut que les jeunes soient engagés dans quelque chose qui a un cadre, qui va prendre la forme d'un contrat d'engagement, d'accompagnement, qu'il y aura un certain nombre de jours de travail à faire. C'est pas on vient quand on veut, il y a quand même des exigences liées à l'autoconstruction.
Et vous avez eu beaucoup de volontaires, vous avez dû choisir ou...
En fait, on s'est appuyé sur des structures partenaires qui sont dans le Nord-Isère, qui sont en charge d'accompagner des jeunes en difficulté. Et ce sont ces personnes-là qui en ont parlé à leurs jeunes. Alors, ce sont des foyers de jeunes travailleurs, des associations de prévention de la délinquance, des missions locales. Et les jeunes sont venus comme ça. On a réalisé toute une série d'entretiens avec une vingtaine de jeunes. Et puis quand on est arrivé à 10, on s'est arrêté.
Et ce type d'expérience a déjà été fait par d'autres associations compagnons bâtisseurs dans d'autres régions ou...
L'association Compagnons Bâtisseurs Bretagne a, en 2005, lancé un projet avec de l'autoconstruction, mais avec un public différent, des gens en accession sociale à la propriété, donc des personnes modestes. Et la part d'autoconstruction était très faible. Voilà, donc on a expérimenté tout un tas de choses avec ce projet en Bretagne. On essaye d'aller plus loin avec le nôtre. Et puis, on a d'autres associations compagnons bâtisseurs qui sont engagées aussi dans des projets de ce type. Alors, la Bretagne recommence en essayant de faire grandir la part d'autoconstruction. Et puis, nos collègues de Provence aussi essayent d'initier des projets d'autoconstruction.
Et là, un projet d'autoconstruction, ça mobiliserait en travail concret combien de temps, par exemple, par semaine, hein, une personne ?
Ça, c'est très très difficile à quantifier. On travaille beaucoup avec mon collègue sur ce genre de choses. Pour l'instant, on est sur un chantier qui pourrait durer entre 6 et 9 mois. Et on se dit qu'il faut mobiliser les jeunes à raison de 2 à 4 jours par semaine. Voilà. Et après, on essaye de s'adapter aussi à leur situation, parce que certains ont parfois des contrats d'intérim, d'autres ont des emplois à temps partiel, d'autres n'ont pas du tout d'emploi. Donc il faut vraiment aussi s'ajuster à leur mode de vie et leur disponibilité.
Bon, je vois l'heure qui tourne. On va peut-être terminer en rappelant justement les ateliers et les boutiques tech, donc du coup, ça se passe. Et puis... comme on le disait, si ça vous intéresse, les portes sont largement ouvertes, en fait-il, donc pour rejoindre ou contacter les compagnons bâtisseurs.
Alors du coup, pour rappeler les horaires, enfin les jours de permanence sur le secteur d'Oullins. À Oullins, c'est tous les jeudis après-midi de 14h30 à 18h. Le prochain atelier à thème, ce sera le jeudi 3 octobre. Donc, apprendre à remplacer une vitre. Aujourd'hui, vous avez loupé la fabrication de meubles en palette avec l'association, enfin, en partenariat avec voilà, les Robins des Villes.
Vous pouvez rappeler l'adresse à Oullins ?
Alors, oui, pardon, c'est 49 rue Pierre-Sémard à Oullins. Et ensuite, pour ce qui concerne Lyon 1er, c'est les mardis après-midi. Et le prochain atelier, c'est le 10, et le thème, ce sera les techniques de fixation. Et donc, ce sont pendant ces jours de permanence, le jeudi à Oullins et le mardi à Lyon, que l'outil tech est ouverte, donc, et que nous faisons les prêts et les restitutions des outils.
Et donc, Lyon, c'est 21 rue Pouteau.
21 rue Pouteau, oui, c'est ça.
Et donc sinon, si on veut en savoir plus, il y a un site internet.
Oui, donc le site internet qui est celui de l'ensemble du mouvement Compagnons Bâtisseurs, donc www.compagnonsbâtisseurs avec un S à compagnon et un S à bâtisseur.org.
Et de toute façon, l'émission sera en téléchargement sur le site d'Attaque et sur notre blog sur le site de Radio Canu. Et on mettra également les liens donc pour retrouver les compagnons bâtisseurs. Et on va laisser la place au Canu Info. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines avec une émission de circonstances, puisqu'elle sera sur les retraites. Au revoir.
Merci. No,